et bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec les podcasts de la rédaction. Aujourd'hui, podcast numéro 64. Et oui, déjà 64 épisodes de ces podcasts incroyables qui vous font rêver. Tous autour de la table à repasser la plus incroyable d'Internet, Julo, Angel, Raan, Caf, moi-même et un invité de marque, Florent Gorge. Bonjour Florent.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors Florent, tu es l'auteur, l'homme à tout faire, tu disais tout à l'heure...
Le couteau suisse,
l'homme orchestre, d'une série d'ouvrages concernant l'histoire de Nintendo. Et effectivement, aujourd'hui, le podcast concerne Nintendo, nous allons y revenir. Mais tu es aussi le rédacteur en chef d'un MOOC. On présente un petit peu rapidement, ça s'appelle Pix & Love. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Alors, les éditions Pix & Love, en fait, éditent ce qu'on appelle un MOOC. C'est un peu un concept hybride entre magazine et book, qui traite de rétro gaming, de l'histoire du jeu vidéo. Et les éditions Pix & Love ont été créées, en fait, exactement l'année dernière. Par trois personnes, Sébastien Mirc qui est éditeur normalement, et puis Marc Petroni qui lui est aussi journaliste jeux vidéo depuis un certain temps, et moi-même, voilà.
Parfait, alors justement si on t'invite aujourd'hui, ça fait déjà une semaine qu'on avait présenté un petit peu ce qui va se passer dans ce podcast, puisque nous allons retracer ensemble l'histoire, la genèse de Nintendo, et vous allez voir énormément d'anecdotes, de petits clins d'œil, enfin des choses qu'on ne connaissait pas, parce que tout le monde a finalement un peu l'impression de connaître l'histoire de ce géant du jeu vidéo, et pourtant il y a encore énormément de zones d'ombre, vous allez le découvrir.
Du crime, du sexe, la drogue.
Du sexe en tout cas, oui, il y en aura, vous allez voir. En tout cas, grâce à toi Florent, on va pouvoir en apprendre beaucoup plus sur la face cachée de Nintendo, puisque sort très très bientôt, si je dis pas de bêtises, c'est même...
Demain
jeudi, 2 juillet.
3 juillet.
3 juillet, très bien, tout à fait. 3 juillet, c'est vrai que nous enregistrons un mardi. Sort l'histoire de Nintendo de 1889 à 1980, des cartes à jouer au Game & Watch. Ouais. Un livre, c'est un véritable livre, là on parle plus de magazine, on est d'accord ?
Absolument.
Voilà, c'est le volume 1, édité donc bien sûr aux éditions Pix & Love. Il y aura a priori combien de volumes de prévus ?
On en prévoit 7 pour le moment.
Ouais. D'accord. Alors, juste pour vous donner un petit ordre d'idée, vous avez déjà pu le voir sur gameblog.fr, des images, des captures d'écran. C'est très riche visuellement, c'est un super beau papier, franchement, c'est un très très bel ouvrage.
Oui, parce qu'on a tous un exemplaire là.
On a tous un exemplaire sous les yeux et franchement, ça vaut vraiment le détour. C'est plus de 220 pages d'informations, rien que pour ce premier volume, riche en anecdotes. On va le voir tout de suite. Alors justement, on vous avait demandé, vous, internautes de gameblog.fr, de poser certaines questions, certaines interrogations sur Nintendo. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Et justement, moi, juste avant de faire l'écho à vos questions, j'aimerais savoir, Florent, un petit peu comment aujourd'hui, en 2008, alors qu'avec Wikipédia, avec tout ce qu'on connaît, on a l'impression d'avoir déjà fait le tour sur Nintendo, comment encore on peut trouver des anecdotes, des choses complètement inédites sur l'histoire de Nintendo, parce que toi, t'en as juste trouvé des centaines, j'ai envie de dire.
Bon, c'est vrai que c'est serait difficile, il faudrait s'étendre sur des heures et des heures pour expliquer comment s'est fait ce bouquin. Simplement, en trois mots, sur Internet, en fait, quand on regarde tous les historiques qui traitent de Nintendo, ils passent tous en fait, de 1889, qui est la date de fondation de Nintendo, jusqu'au Game & Watch, en à peine trois lignes.
C'est très vite survolé.
C'est très très vite survolé. Voilà, ils ont fait des cartes à jouer, et puis c'est à peu près tout ce qu'on sait. Pour arriver à trouver des informations, il faut simplement remonter à la source. C'est-à-dire trouver en fait, des personnes qui ont anciennement travaillé chez Nintendo, arriver à faire des vide-greniers au Japon, par exemple, ça c'est une chose, en fait, pour retrouver des jouets. Et à partir de ces jouets, de fil en aiguille, on arrive à retrouver d'autres informations qui nous guident, etc.
Alors justement, revenons un petit peu sur ton expérience personnelle, puisque toi, tu as vécu au Japon pendant pas mal de temps, 6 ans, je crois.
6 ans,
c'est ça. Alors, justement, comment tu as pu t'approcher, peut-être profiter de ce passage au Japon pour te rapprocher de personnes au sein de Nintendo ?
Bon, après, je ne vais pas revenir sur ma carrière, mes études, etc. Mais d'une manière générale, voilà, j'ai réussi à un moment à rentrer dans l'équipe d'un magazine japonais qui s'appelle Nintendo Dream, qui est le plus gros magazine dédié à Nintendo au Japon. Et puis,
t'es correspondant permanent pour eux, c'est ça ?
Oui, voilà, d'accord. Correspondant européen. Et bon, grâce à ça, ça m'a permis d'ouvrir pas mal de portes et de rencontrer pas mal de personnes de chez Nintendo. Mais au-delà de ça, c'est vrai que pour retrouver des documents inédits, il faut faire beaucoup d'investigations. Par exemple, il faut se rendre à la Bibliothèque nationale à Tokyo, chercher dans les archives, dans tous les quotidiens de Kyoto, par exemple, de toutes ces années-là. Il faut arriver à remonter aussi en cherchant dans les journaux, dans les magazines professionnels de jouets. des choses qui sont absolument pas accessibles normalement au grand public, mais qui sont destinées aux professionnels du jouet. Et là, on se rend compte qu'il y a des publicités de jouets Nintendo, qu'ils cherchent des distributeurs ou ce genre de choses. Et là, on trouve des noms de jouets. Ouais. Et en arrivant à retrouver des jouets, bon, bah, de fil en aiguille, pareil, on arrive à trouver de différents documents.
D'accord.
Et un paquet même.
Il y en a on sent quand on a ce petit bouquin entre les mains que c'est une source incroyable de plein de petits éléments comme ça qu'on
c'est encyclopédique,
c'est vraiment encyclopédique, carrément. Et puis il y a des photos
inédites,
c'est impressionnant quoi.
Mais c'est vrai que pour les objets
exclusives,
pour les objets on peut trouver assez facilement de nombreuses informations, encore que il faille chercher. Il y a une autre manière en fait, ça c'était un petit peu un coup de bol, ça c'est un truc qui nous a beaucoup plu parce qu'on est deux véritablement à refaire ce bouquin. J'ai un ami japonais qui est un gros collectionneur de Nintendo.
On peut le citer, hein, il s'agit de Isao Yamazaki
exactement. Et c'est vrai que tous les deux on a été de nombreuses fois à Kyoto en fait pour faire différentes rencontres, pour rencontrer différentes personnes, et il s'est avéré qu'une fois, c'est un gros coup de bol en fait, quand on arrive devant le premier local de Nintendo, juste à côté il y a un marchand de fruits et légumes. Ouais. Bon, il y en a beaucoup au Japon dans les petites rues, dans ce qu'on appelle le shitamachi, et il s'avère que dans ce marchand de fruits et légumes il y a une vieille dame qui a plus de 80 ans. L'année dernière elle est encore vivante, donc bon, j'ose espérer que pour elle qu'elle est encore vivante.
Au Japon on vit vieux.
On vit très vieux, ouais.
C'est donc, des caresses, c'est l'adolescence, 80 ans.
Ouais, bon, elle est prépubère maintenant, mais... voilà. Mais c'est vrai que cette dame, en fait, on a été la voir hein, simplement pour lui poser quelques questions, si elle a toujours vécu dans ce quartier, etc. Mm-hmm. Et elle nous a tout simplement dit, bah, j'ai travaillé 20 ans chez Nintendo. Alors là, c'était une aubaine,
ça, c'est bien, ça. Ouais.
Parce que cette dame, elle a travaillé en fait pendant toute la période de la guerre, et bah, elle nous a raconté des trucs de fou, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est des anecdotes en fait qu'on a pu avoir sur Nintendo, mais non seulement par chance, mais aussi parce qu'on fait l'effort de se déplacer et d'aller voir des gens qui avaient des choses à dire.
C'est une vraie enquête.
Véritable enquête, oui.
C'est du journalisme total.
C'est ça.
Du journalisme total, tout à fait. Ouais. Eh bien, écoute, moi, ce que je vous propose à tous, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, justement, on va commencer avec une première question, ma foi, pertinente, posée par Volodym sur le forum de Gameblog.fr. Et sa première question était simple, mais à la fois, on a tous envie de savoir. Ouais. C'est d'où provient le nom Nintendo ? Et je crois qu'il y a deux versions. Une version officielle, peut-être pas la plus intéressante, mais une version un peu moins officielle, un peu plus officieuse, mais qui serait peut-être plus proche de la réalité. Qu'est-ce qu'il en est, Florent ?
Ouais, donc pour éviter le spoil, en fait, parce que ce serait un peu dommage, je vais essayer de résumer quand même. Dans tous les historiques officiels de Nintendo, il est stipulé que Nintendo signifie laisser les dieux en décider, ou un truc comme ça. Et ça viendrait effectivement d'une des maximes du fondateur, donc Fusajiro Yamauchi, en 1889. Plusieurs chercheurs et aussi des spécialistes du jeu vidéo sont persuadés, et même des jeux de cartes, sont persuadés que Nintendo, ça ne veut pas dire ça du tout.
Alors ça veut dire quoi, Florent ?
Ah, j'hésite un petit peu à le dire. Bon, ça voudrait dire en fait le temple du Hanafuda libre. Alors comme ça parle pas beaucoup, effectivement.
Hanafuda, c'est les cartes à jouer, c'est
voilà,
ça ?
Le Hanafuda, en fait, c'est les cartes à fleurs. C'est un jeu de cartes traditionnel japonais. Et il y a une explication. Il y a évidemment un lien logique entre ce nouveau nom, cette nouvelle signification, que j'explique évidemment dans le bouquin. Et on a des preuves en fait que ce serait plus ça. Je vais éviter les données, ce serait très compliqué parce qu'il faut, y a des jeux de mots avec les kanji qui sont dans les trois
idéogrammes. Oui, puis tu l'expliques très bien dans le livre, effectivement. Donc ceux qui vont savoir vraiment plus, bah.
Voilà. Alors après, la question, c'est de savoir pourquoi Nintendo a pris une interprétation et pas l'autre. Voilà, il fallait trancher un moment. Mm-hmm. Même Hiroshi Yamauchi, l'ancien président charismatique, lui-même ne sait pas en fait.
Ah oui,
il l'a dit plusieurs fois. C'est une des interprétations possibles. Laisser les dieux en décider, c'est une des interprétations possibles. Mais personne à l'heure actuelle ne peut dire et ne peut affirmer que c'est la seule et correcte. Voilà, il faudrait en fait revenir dans le temps et puis demander au fondateur tout simplement. Donc il existe plusieurs significations.
Et tu l'as pas fait ?
Malheureusement, non.
Putain, avec une DeLorean, c'est possible.
Donc voilà, il y a plusieurs interprétations possibles. Les deux sont données dans le bouquin, sont détaillées, on explique pourquoi. Ouais.
D'accord. Bon, Florent, maintenant, question de surplus 7. Eh ben oui, on choisit les pseudos qu'on veut. C'est justement, on va faire un petit récapitulatif rapide de l'histoire justement de Nintendo, comme tu l'as dépeint dans ton ouvrage.
Ouais.
Donc on va s'arrêter à l'époque 1980, donc l'arrivée des premières Game & Watch. Mais l'histoire commence en 1889. Et cette société gigantesque aujourd'hui on connaît dédiée aux jeux vidéo, eh ben, on va voir qu'effectivement... à l'origine, c'était bien plus complexe que ça, et le jeu vidéo était encore très très loin. Il y a l'histoire de riz, de Love Hotel, de Taxi, dis-nous-en un peu plus.
Ouais, on va essayer d'aller vite quand même parce qu'il y a 130 ans à énumérer ouais. d'un seul coup. Voilà, il faut savoir qu'en 1889, le Japon sort d'une période en fait d'autarcie totale. Ils étaient en fermeture totale avec l'étranger. Mmh. Et les jeux d'argent, donc tous les jeux de cartes, etc., étaient totalement interdits par le gouvernement. Et en 1889, c'est uniquement 4 ans après la levée de l'interdiction. Ouais. Donc Nintendo s'est créé très, très rapidement après cette interdiction du gouvernement japonais. Et donc on peut penser que le premier fondateur, Fusajiro Yamauchi, jouait avant.
C'est quoi ? C'est le grand-père ? C'est le père
c'est
de
l'arrière-grand-père
Hiroshi Yamauchi ?
De Hiroshi Yamauchi, oui.
L'arrière-grand-père, d'accord.
Et donc ce monsieur jouait au Hanafuda dans la plus totale illégalité.
Donc aux cartes à jouer.
Il a fondé Nintendo quand il avait 30 ans, donc il était pas, il connaissait quand même les Hanafuda quand il a commencé à en créer. Mm-hmm. Donc il s'est installé à Kyoto tout simplement dans une petite boutique. Il a monté.
Fait de briques et de broc, de passion
et
de sueur.
Et surtout de bois. Et
une bien belle échoppe.
Cette boutique en fait, ouais. on pouvait la voir jusqu'en 2004. Ouais. Et le truc le plus dramatique, c'est que cette fameuse échoppe en bois, qui est exactement qui était au côté en fait de la boutique en brique qui est encore visible aujourd'hui, mmh. elle a été détruite en 2004.
Ah ouais.
Et voilà, on y a un superbe maintenant à la place de la boutique en bois, on y a un super goudron. Voilà.
C'est parfait.
Super goudron. Ouais,
ils n'ont pas voulu la garder.
Au moins
historiquement
mettre un McDo,
parlant.
Quoi, je sais pas.
Ils auraient pu mettre un McDo et ça aurait été un lieu de culte pour beaucoup de.
Parce que le culte du McDo au Japon.
Exactement. Mais voilà, donc ça a été détruit pour laisser place à un parking.
Très bien.
Ce qui est très dommage,
triste,
évidemment. Ouais.
C'est marrant qu'ils aient pas voulu préserver ce truc-là. Enfin, l'origine de la boîte.
Non. En fait, en 2004.
Enfin, cela dit, c'est pas trop dans la mentalité japonaise de tergiverser sur le passé. Et c'est plutôt justement construire
ouais.
toujours du neuf.
Ouais, c'est surtout la politique de Nintendo qui se veut plus tourner vers l'avenir plutôt que le passé. Après, ouais.
On en parlera justement tout à l'heure dans d'autres questions posées par les internautes.
Il faut savoir qu'en 2004, il y a eu un gâchis phénoménal. Nous, on a appris avec mon ami japonais qu'en 2004, ils avaient balancé en fait toutes les archives de Nintendo à la poubelle, tout simplement.
Mais pourquoi ?
Ça, il faut demander à Monsieur Iwata, hein, c'est lui qui était dit patron à cette époque-là. Ils ont simplement tout balancé.
C'est juste hallucinant.
Ils ont gardé quelques jouets, quelques jeux dans les stocks, mais ouais. c'est vraiment les plus emblématiques. Tout le reste, ils l'ont balancé. Moi, j'ai rencontré une personne, malheureusement, je ne peux pas citer son nom, qui nous a montré en fait un jeu qui s'appelle Elekonga, qui est une boîte rythmique qui a été inventée par Gunpei Yokoi. Mm-hmm.
Dont on parlera tout à l'heure.
Dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et c'est un jeu extrêmement rare qu'on trouve très très difficilement, même sur les enchères japonaises. On lui a demandé où est-ce qu'il l'avait récupéré. Il a dit je l'ai récupéré dans une poubelle. Mais quelle poubelle ? Bah, celle de Nintendo. Parce que oui, en 2004, ils ont tout balancé à la poubelle et on avait pour interdiction formelle de ne rien récupérer. Parce que maintenant, évidemment, c'est une valeur inestimable. Ouais. Bon, il a réussi à récupérer 2-3 trucs quand même. Mais c'est vrai que nous, si on avait su, évidemment, on ne pouvait pas le savoir. Avec mon ami, on aurait joué les clodos, on aurait fait toutes les poubelles de Nintendo. Quoi.
Bah, ça, c'est la force de ton ouvrage, justement, c'est que par contre, on peut les découvrir en images, c'est très, très richement illustré.
Ouais.
On voit toute la gamme de jeux qu'ils ont créés. Mais alors, justement, avant de parler un petit peu des jeux et jouets de Nintendo, là, tout à l'heure, je te lançais un petit peu sur des choses un peu plus exotiques, comme le riz. Et puis, il y a beaucoup de personnes aussi qui se posent des questions sur les Love Hotel. Est-ce que c'est une légende ou pas ?
Alors, non, c'est pas une légende.
On peut expliquer déjà ce que c'est que les Love Hotel pour ceux qui ne connaissent pas.
Parce qu'il y a énormément, mais ça, c'est pas uniquement sur les Love Hotel, mais il y a énormément de malentendus sur l'histoire de Nintendo. Puisque de toute façon, honnêtement, peu de personnes ont réussi à faire de véritables recherches sur l'histoire de Nintendo. C'est du copier-coller de beaucoup de sites, etc. Mmh. Et sur l'histoire des Love Hotel, en fait, il y a un gros malentendu, tout simplement. On a toujours tendance à confondre un Love Hotel avec un hôtel de passe.
Mmh.
Voilà. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Après, c'est des différences culturelles. Il faut savoir que les habitations au Japon, surtout dans les villes comme Kyoto, elles étaient en bois, il y avait des séparations entre les pièces très très minces, et que les couples, avaient pour habitude, les familles avaient l'habitude de vivre avec 3 générations, les enfants, les parents et les grands-parents. Donc pour avoir une intimité...
C'est encore le cas aujourd'hui dans plein de foyers japonais.
Tout à fait, c'est encore beaucoup le cas. Et pour avoir un minimum d'intimité, il fallait donc des endroits où qu'on pouvait louer pour 2 heures, 3 heures.
D'accord.
Alors couple légitime ou pas, ça regarde personne, ça regarde que les concernés. Et les Love Hotels, en fait, c'est ça, quoi. C'est des hôtels dans lesquels on pouvait aller s'ébattre pendant 1 ou 2 heures avec sa copine ou avec n'importe qui. Enfin, bon, ça, c'est au choix. Donc, c'est pas des hôtels de passe. C'est pas aussi vulgaire qu'on voudrait le faire.
Disons qu'on vient accompagner. C'est ça le concept.
On vient accompagner. Oui, oui, il n'y a pas de femme
pas chercher
qui nous attend dedans.
Voilà,
ouais. C'est pas du tout ça. Donc, quand on dit que Monsieur Yamauchi a fait gouverner en fait des différents hôtels, etc. C'est vrai. C'est vrai. Il y a très très peu de pièces à conviction pour ça. Il y en a quelques-unes, mais c'était pas des hôtels de passe.
Mais ils n'étaient pas estampillés Nintendo.
Des hôtels. Non, bien sûr. Non, voilà. Non. De toute façon, là encore,
c'était un business parallèle à ce qu'ils faisaient pour Nintendo.
Ah, tout à fait. Mais il faut savoir que Nintendo, dans le bouquin, c'est marqué. Il y a pas que Nintendo. C'est-à-dire que Hiroshi Yamauchi s'est lancé dans énormément, et même ses parents, ses grands-parents, ils sont lancés dans plein de
business,
dans aventures. Ouais. Et il y a un grand paquet de filiales qui ont été lancées, notamment pour les jouets. Il y a une marque de jouets qui s'est lancée. C'était pas Nintendo, mais c'était Nintendo qui les faisait. Mmh. Voilà, c'est des filiales, quoi. C'est le système des filiales. Donc il y en a un paquet. Donc les taxis, c'est la même chose. Je rebondis sur l'épisode des taxis. C'était pas des taxis Nintendo.
Compagnie de taxis.
Voilà.
Ça, c'est étrange.
Ça s'appelait Daya. C'était la contraction pour Diamond, donc le diamant en anglais. Et c'est une. Il avait une quarantaine de taxis sous son contrôle. Ces taxis continuent. Et on en trouve toujours, bien sûr. Ouais.
Mais ça reste une filiale de Nintendo ou pas du tout ?
Pas du tout. Non, d'accord. Non. Ça a été racheté en fait par une autre société de.
Sega. Qui cherchait à se diversifier.
Ça a été racheté.
La console, ça marche pas.
Ouais, ça a été racheté par une autre société de taxi du Kansai, donc c'est la région de Tokyo et de Osaka. Mm-hmm. Et on les trouve encore. Mais le siège social de cette société, qui est toujours en vie, c'est exactement le même. Et quand on se rend sur le siège social, j'ai eu la chance de pouvoir y aller, on trouve toujours sur le mur l'ancien logo. Mmh. Bah de l'époque Nintendo, avec d'accord. Un diamant. Quoi. Donc il y a des traces, évidemment, de ces choses-là. Ça n'a pas été inventé, c'est vrai. Mmh.
Et donc, on parlait aussi de riz. Alors là, c'est de l'alimentation, carrément. On voit la diversité de Nintendo. Ouais. Ça aussi, c'est vrai. Comment ça se passait ? C'était encore une autre filiale ?
C'est une autre filiale. Là, même si Nintendo s'en démoint un petit peu, parce qu'ils ne l'ont pas montré, c'était un échec total, évidemment. Ouais. C'est détaillé plutôt en détail dans le bouquin, mais ils se sont liés avec deux autres sociétés pour monter une société à trois. Mmh. Et ils se sont lancés dans le. C'était en plein boom.
Ils ont appelé ça la Triforce.
C'était.
Pas mal.
Je sais pas si tu le dis en connaissance de cause, mais c'était à peu près ça.
Ah bah.
Et ils se sont lancés dans les essais de riz instantané. Mmh. Et il n'y a pas que ça, ils ont fait pas mal de trucs en agroalimentaire parce que c'était les années où on était dans le boom des nouilles instantanées. Mmh. Maintenant, c'est banal, c'est commun, mais à cette époque, c'était miraculeux, ça sauvait la vie de beaucoup d'hommes d'affaires qui n'avaient pas le temps de rentrer chez eux, etc. Et ils se sont dit, on va faire du riz instantané. On a, nous, des photos, effectivement, de package de riz de cette époque. Et
quelle année, ça, à peu près?
C'est début des années 70, j'ai pas toutes
1960,
les dates. C'est ça, ouais. Début des années
70. Bah, justement, est-ce que c'est pas ce qui est marquant dans l'histoire de Nintendo, c'est ce qui est un peu inscrit dans son ADN, c'est toujours de sentir un peu avant tout le monde les bons filons. Là, tu parlais du boom, l'explosion du riz instantané, etc. Là, avec les consoles, on viendra plus tard quand ils se sont lancés dans le jeu vidéo, c'est de sentir un peu les bonnes tendances et de se mettre dessus. Il y a peut-être d'autres choses aussi qu'ils ont fait dont on n'a pas parlé encore.
Oui, il y a énormément de choses. On n'a pas parlé des jouets. C'est phénoménal. Les jouets, dans le bouquin, il y en a plus de 350 énumérés. Ouais. Ils ont fait énormément de choses, que ce soit des licences de jouets importées des États-Unis ou même encore d'Europe, ou des jeux même originaux, bien sûr, de Nintendo. Mm-hmm. Ils ont fait énormément de choses. Ensuite, ils ont fait des produits tout à fait étonnants. On pense notamment à une poussette canne pour les mamans.
Ah oui, c'est ça.
Voilà.
Excuse-moi. Une poussette canne ?
Exactement.
C'est quoi une poussette canne ?
C'est pour mettre les bébés dedans et puis tu pousses ton bébé.
Mais pourquoi canne ?
Parce que quand tu refermes la poussette, ça
se transforme en canne.
D'accord.
C'était ingénieux, c'était l'ancêtre de la Wiimote.
Ok.
Donc voilà, c'est ça la définition de la poussette canne.
Bon, d'autres trucs comme ça, un peu anecdotes rigolotes ?
Bon, il y en a un paquet après.
Sors-en deux, trois. Allez, je veux deux, trois petites anecdotes d'objets surréalistes de Nintendo. Ouais,
en tout cas, quand tu regardes les jouets, il y a des trucs qui ont l'air surpuissants, quoi.
Il y a des jouets très très amusants.
Genre l'ancêtre de Duck Hunt et tout ça.
Oui, Duck Hunt, c'était pas du tout un jeu vidéo. À l'origine, c'était tiré de ces pistolets optoélectroniques.
Optoélectroniques.
Mm-hmm. Et au niveau des objets un peu originaux, ils ont fait une machine à barbe à papa, par exemple.
Ça, c'est énorme.
Et c'est marqué Nintendo dessus, donc après, on a des preuves. Mm-hmm. Après, ils se sont lancés dans la bureautique. Ils ont fait des meubles pour les bureaux. Ils ont fait des stylos.
Ils sont des Ikea.
Ils ont fait Ikea Nintendo, quoi, en gros. Et il y a énormément, en fait, de jouets, des imprimantes, des tas de trucs.
Et tout ça, c'est estampillé Nintendo, par contre.
Voilà.
C'est le même logo que maintenant ou ça,
Le logo a changé 4 fois.
Ah, c'est intéressant, ça.
Le logo a changé 4 fois. Il y a eu différents types de N, vous voyez, les N de Nintendo. Bon, après, il faut...
Toujours inclus dans un petit cartouche ou pas ? Ça, c'était une variante
Cartouche ?
Oui, le petit cercle ovale.
Non, ça, c'est vraiment le Nintendo de la NES ouais. Aux États-Unis. Hein. C'est à partir de ce moment-là que Nintendo a pris ce logo. Mais au Nintendo Japon, pas ce logo-là, ils étaient en kanji pratiquement encore, même à la Famicom. Quoi. Mm-hmm. Donc, ils ont changé pas mal de fois de logo. Il y avait même une question, je crois, d'ailleurs, sur les mascottes de
ouais,
Nintendo.
Bah justement,
à l'époque.
On ouais. va y venir. C'est une question de Master Chen sur Gameblog.fr qui nous l'a posé. Justement, on connaît tous Mario, bien sûr, mais enfin, il arrivait bien, bien plus tard. Est-ce qu'il y avait une mascotte de Nintendo, quelque chose qui symbolisait un peu cette marque à cette époque où finalement ils étaient sur 12 fronts en même temps ?
Le concept de mascotte, c'est vrai qu'il est arrivé, en fait, je crois, très tard. Mm-hmm. Mario, ouais, c'était vraiment au milieu des années 80, mm-hmm. Surtout à partir de Super Mario Bros. Mm-hmm. Mais par exemple, pour la Famicom, on est un peu hors sujet, parce que c'est le bouquin, il s'arrête au 1980.
Oui, mais parfois, ça fait du bien.
Ça fait du bien sortir du sujet, ouais, de faire du...
Puis surtout, on n'est pas du tout habitué sur Gameblog.fr, donc...
Mais donc, c'est vrai que le premier... c'est difficile de voir, en fait, quelles sont les premières mascottes. On a eu, par exemple, je sais qu'au tout début des années 1970, en 1971, on a eu une mascotte, c'était un kangourou.
Ah oui.
Ouais. Un kangourou. Mais ça, c'était
un kangourou, Jumpman, Mario, tu vois un peu. Quand il y a de la suite dans les idées.
Il y a de la suite dans les idées. Je ne suis pas sûr que le lien soit fait de cette manière, mais il y a eu un kangourou, effectivement, pour une série de jouets qui a très bien marché, qui s'appelait les mini-series. Mm-hmm. Et voilà, bah, c'était un kangourou. Ensuite, quand ils ont lancé la Famicom, Mario était déjà présent. Mm-hmm. Mais il faut savoir que Mario n'était pas encore la mascotte de Nintendo. Ouais. C'était un jeu à succès, mais c'était mm-hmm. Donkey Kong qui était d'ailleurs ouais. plus
mis en avant.
Mis en avant. Et sur toutes les notices de la Famicom, il y avait un petit personnage dont j'ai malheureusement, vous m'en voudrez pas, j'ai oublié le nom, il m'a échappé, et qui ressemblait bah comme
écoute,
deux gouttes
d'eau. On t'en veut, tu sors.
Bon, allez, salut, merci.
Ce podcast est terminé.
Et voilà, merci. Excuse-nous.
Non, mais c'est vrai que la première mascotte de Nintendo à l'époque des consoles, il revenait très souvent. Il est revenu dans toutes les notices de machines, donc pour le disque système notamment.
Comme Captain Commando dans les notices Capcom.
Par exemple. Voilà. Et bah, ce petit personnage Nintendo, il ressemblait comme deux gouttes d'eau à Son Goku de Dragon Ball, avant les parties Z et compagnie. Mais il avait une queue de singe, il avait une casquette avec un N, je crois, dessus, ou un truc comme ça. Et c'était un Son Goku, mais il ressemblait comme deux gouttes d'eau. Ben c'était de toute façon, c'était 83-84, c'était la période où Dragon Ball a fait un break au Japon. Quoi. Mm-hmm. Donc,
Et est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de Napoléon, qui revient très souvent sur les cartes à jouer Nintendo ?
Napoléon, oui, c'est en fait... Eh ben, c'est pourquoi la première mascotte. Voilà, ça c'est bien en fait, parce que ça me permet de faire le rapprochement, mais il s'avère que Napoléon est la première véritable mascotte de Nintendo. Puisque Nintendo, donc, quand ils ont lancé leur jeu de Hanafuda, donc les jeux les cartes à fleurs, l'emblème, l'illustration sur ces fameux jeux, c'était Napoléon. Voilà. Il y a un portrait, dans les très vieux locaux, il y a une photo des vieux locaux à l'intérieur de Nintendo qui montre Napoléon en portrait. Et sur les jeux de cartes où on voyait Napoléon, le jeu de cartes, il s'appelait Daitoryo. Daitoryo en japonais, c'est
le
président.
Le président.
Ouais, donc c'est pas du tout l'empereur.
Moi, je pense qu'il parle de Serge Lama, en fait.
Serge Lama. Alors, il y a Private Joke.
Serge Lama, Napoléon. Merde. Ah putain, mais vous êtes vraiment trop jeune.
Ok, ouais.
Donc, Florent,
j'ai pas compris du tout.
Serge Lama ressemble à Napoléon. Putain, on s'est foutu de sa gueule pendant toute sa carrière. Enfin, bref, bon, allez, bon.
C'est une anecdote de plus. Très bien. Merci, Angèle. Donc Napoléon, première mascotte, avec un nom qui s'appelait Daitoryo, qui n'a rien à voir avec l'empereur. Pourquoi c'était Daitoryo alors que c'était un empereur ? Le mystère reste entier, mais on peut tout simplement imaginer que il y a eu une confusion entre le premier président des États-Unis, qui était très à la mode à cette époque, et puis Napoléon. Voilà, il a appelé le président alors que c'était un empereur. Enfin bref.
Les Japonais, parfois, ils remoulinent leur truc à leur sauce. Hein,
surtout à la fin du 19e siècle. Hein, on peut leur pardonner leurs erreurs et les confusions.
Tout à fait. Justement, une question dans cette période historique, une question de Asmodil qui nous demande justement quelle a été la position ou la relation entre Nintendo et l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est intéressant pour voir un peu comment la société se situait à ce moment-là.
Le côté obscur de Nintendo
On va voir tout de suite, Florent.
Non, je crois qu'il y a plusieurs choses à voir. Il y a là, je pense qu'il veut dire, il veut parler de la Seconde Guerre mondiale, mais le Japon a connu bien d'autres guerres, même avant. Et moi, je voudrais revenir, par exemple, sur la guerre russo-japonaise en 1904, qui serait, ça encore, c'est une interprétation parce qu'il n'y a aucune preuve qui l'atteste, mais qui serait en fait le point de départ des jeux de cartes occidentaux, la guerre russo-japonaise. Donc, bon, là, c'est à lire exactement, mais voilà, il s'avère que au Japon, il y avait des prisonniers russes qui étaient faits et qui étaient donc à Kyoto, et les jeux de cartes occidentaux seraient arrivés, enfin, auraient été créés par Nintendo à cette période. Bon, ça, c'est une anecdote, je vous laisse découvrir après dans le livre.
Tu veux dire qu'en fait, les Occidentaux ont commencé à jouer aux cartes à cause des Hanafuda ?
Oula, non, pas du tout. En fait, les Hanafuda arrivent bien plus tôt, en fait, au XVIe siècle par les Portugais. Mais c'est de fil en aiguille que c'est devenu des Hanafuda, voilà. Mais les jeux de cartes occidentaux, c'était encore d'autres styles de cartes. Voilà, quand les premiers occidentaux sont arrivés au Japon, ils avaient des jeux de cartes, mais c'était pas du tout la forme actuelle. Okay. Voilà, donc c'est devenu les Hanafuda. Et après la période de fermeture des Japonais en 1968, d'autres jeux de cartes sont rentrés, et c'était les actuels. Et il faut attendre encore 40 ans pour que les Japonais se décident à en faire. Et c'était, en l'occurrence, Nintendo qui s'est lancé dessus en premier. Donc ensuite, on revient peut-être sur la période de la Deuxième Guerre
répondre
mondiale.
Répondre à la question d'Asmodil. Ouais.
Ouais, donc la Seconde Guerre mondiale, le Japon doit participer, tous les habitants, toutes les sociétés doivent participer à l'effort de guerre, comme on dit. L'ambiance n'est pas tellement au jeu et encore moins au jeu de cartes. Donc la production de Nintendo est totalement stoppée, mais coup du sort en fait.
Trafalgar, j'ai envie de dire.
Ouais, Napoléon. Miracle. Le Japon qui est dans une pleine période de propagande évidemment ultranationaliste. Bon, il faut se remettre dans le contexte de l'histoire évidemment. Commande à Nintendo des jeux patriotiques.
D'accord. Et alors, ils prennent quelle forme, ces jeux patriotiques ?
C'était, en fait, on va rentrer dans les termes compliqués, c'était pas un jeu de Hanafuda, c'était un jeu de Hyakuni Ishu.
Bien sûr.
Bien sûr.
ce qui veut dire ?
Et ben, en fait, Hyakuni Ishu, ça veut dire 100 poèmes dans un recueil.
D'accord.
Ça paraît bizarre, mais en fait, ça, c'est tiré de la littérature japonaise, un très très vieux recueil de poèmes, des haïkus, on va dire, pour simplifier, compilé dans un seul bouquin. Il y avait 100 poètes qui ont fait un bouquin. Voilà. En gros, c'est ça. Et ils ont fait des jeux de cartes tirés de ces recueils. Il fallait jouer. En fait, c'était un jeu mêlant réflexes, culture littéraire et puis jeu hasard. Voilà. Et ils ont remplacé en fait ces 100 poèmes par 100 phrases un peu nationalistes qui mettaient un petit peu le baume au cœur nippon japonais. Et puis voilà, on jouait avec des jeux de cartes nationalistes. Ça a permis à Nintendo, mine de rien, de continuer pendant quelques années, pendant la période de la guerre, parce que les écoles étaient fournies en jeux nationalistes. Voilà. Bon, ça, évidemment, ça n'a pas permis à...
Ça, c'est la Seconde Guerre mondiale.
Voilà, la Seconde Guerre mondiale, ouais.
Ok, intéressant.
Plus de détails à lire dans le livre.
Voilà. J'aime bien quand tu utilises comme ça. Ok, donc en tout cas, ils étaient assez proches finalement du gouvernement, mine de rien.
Mais ils n'avaient pas le choix en même temps. C'était soit ils se pliaient au gouvernement qui était très très strict. Et puis
en tout cas, ça n'a pas été une période de crise pour eux.
Pas
ils
tout
s'en
à fait.
Sont plutôt bien sortis.
Ils s'en sont très bien sortis. De façon, oui, Nintendo était quand même assez riche. Ils ont eu la chance d'être à Kyoto, qui était une ville qui était protégée des bombardements. Parce que le gouvernement a eu l'intelligence d'esprit de ne pas vouloir la détruire. Enfin, ils n'auraient pas détruit toutes les autres villes, ça aurait été aussi bien aussi pour le patrimoine mondial. Oui, mais bon, ils ont préservé Kyoto, ce qui est très bien pour l'histoire de Nintendo et pour Kyoto aussi. Voilà. Mais ils n'avaient pas le choix, de toute façon, Nintendo, ils étaient obligés de le faire.
D'accord. Nouvelle question, cette fois-ci de Salid Snack. Qu'est-ce que c'est que ce pseudo ? Question donc, qu'est-ce qui a décidé Nintendo à se lancer dans le domaine des jeux vidéo, arcade et consoles de jeux ? Parce qu'effectivement, là, on est à la Deuxième Guerre mondiale, on est dans les années 50, et il n'y a toujours pas de jeux vidéo. Alors qu'est-ce qui a fait que, soudainement, ça a été nouvel objectif ?
C'est une question qui m'embête un peu, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de spoil, et voilà, il faut quand même laisser un peu de suspense.
Ça permet de découvrir aussi, de donner envie aux chalands.
Ouais, bon, il faut savoir, c'est l'évolution, on va dire, naturelle de Nintendo, dans le sens où il est arrivé un moment où Monsieur Yamauchi s'est dit les cartes ça marche pas quoi.
Alors juste c'est lequel Yamauchi là à ce moment-là?
Hiroshi,
celui qu'on connaît, qui est encore vivant,
le plus riche du Japon.
Voilà. Et il a pris le pouvoir à quelle époque à peu près d'ailleurs?
En 52,
d'accord, ouais. Donc juste au suite de la guerre.
Ouais, pas très longtemps après. Et voilà, il s'est dit à un moment, les jeux de cartes ça marche pas. Si je veux sauver mon entreprise de la crise, il va falloir que je trouve autre chose. Or, il s'est lancé dans les jouets, il s'est lancé dans différents trucs, enfin, par exemple le matériel pour bébé, ça n'a pas marché. Ouais. Il s'est lancé dans les jeux, ça a bien marché, puisque c'est ce qu'a sauvé finalement Nintendo de plusieurs crises.
Tu parles des jeux plutôt...
Jeux de société, jouets, enfin, ça regroupe tout ça. Mm-hmm. Et voilà, il voulait simplement sortir de ce moule qui était le jeu de hasard, le jouet. Il voulait faire quelque chose de plus utile et rivaliser en fait avec les géants comme Bandai, voilà, qui étaient ou alors Epoch, qui sont moins puissants maintenant, mais qui étaient des fabricants de jouets extrêmement puissants dans les années 70-80. Il s'est dit, voilà, il faut absolument qu'on trouve autre chose. Qu'est-ce que ne font pas les fabricants de jouets maintenant et sur lesquels on pourra avoir de l'avance? Il a trouvé l'électronique. Mm-hmm. Il ne l'a pas trouvé tout seul. Il y avait M. Yokoi qui avait des idées. Il y a M. Uemura ou Imanishi, enfin des tas de gens qui sont cités dans le bouquin, qui ont eu l'idée en même temps, voilà, tout simplement. Et ils sont rentrés dans l'électronique à ce moment-là, et de fil en aiguille, l'arcade s'est développé évidemment par le biais des Américains et d'Atari, s'est rentré au Japon, et puis Nintendo est rentré dans le moule aussi. Mais ils ont été les premiers en fait à rentrer dans le domaine du jouet électronique, au Japon en tout cas, ça c'est sûr.
Donc ceux qu'on présente aujourd'hui comme les artisans du jeu vidéo, le jeu vidéo c'est leur vraie passion et exclusive, ils font que du jeu vidéo contrairement à Sony et Microsoft, finalement, ils sont arrivés dans le jeu vidéo un peu par hasard, juste parce que économiquement à ce moment-là, ça se justifiait et qu'il fallait renouveler un petit peu leur business.
C'était la suite logique en fait de l'évolution des loisirs au Japon, tout simplement. Et ils se sont retrouvés là parce que...
Enfin, la poussette, la machine à barbapapa, au jeu vidéo, il y a quand même un sacré fossé.
Oui, bien sûr, mais ils avaient plusieurs bureaux de développement. Et ceux qui faisaient la bureautique, les poussettes, c'était un bureau parmi d'autres. Ils avaient de toute façon toujours leur Hanafuda, leur jeu de cartes, etc. D'ailleurs, ils l'ont toujours, même
à l'heure
actuelle.
Ils l'ont toujours, oui, hein. C'est ça qui m'intéresse. Il y a encore des cartes à jouer Nintendo commercialisées, qui sortent encore aujourd'hui, qui sont produites.
Oui, il faut savoir que Nintendo produit encore 15 000 jeux de cartes par jour.
Ah oui, quand même.
Ce qui est pas rien. C'est non, c'est même, enfin, par jour.
Et
c'est...
pas aux effigies de Mario et compagnie.
Non, non, non. Ils prennent commande. Hein. Vous comme moi, on peut très bien passer commande à Nintendo, leur dire on veut 1000 jeux de cartes avec ma photo derrière. Mm-hmm. Vous aurez le jeu de cartes Nintendo avec l'as de pique qui est devenu un symbole en fait pour Nintendo, où il y aura marqué Nintendo dessus. Vous pouvez passer commande.
Bon, l'as de pique. Alors
c'est... l'as de pique. Ouais.
Le pique, c'est la mort.
Oula, on rentre dans des considérations. je sais pas. Mais voilà, ceci étant dit, l'as de pique qu'on retrouve d'ailleurs sur la pochette de Fête de la Magie sur DS, je crois.
Oui, c'est vrai.
Voilà, c'est l'as de pique traditionnel de Nintendo qu'ils ont depuis l'époque, depuis le début du XXe siècle, tout simplement.
D'accord.
Mais ils font toujours des jeux de cartes. Et ils sont très chers, très honnêtement.
Ah oui.
Parce que c'est une marque, voilà.
Mais elles sont de quelle... Enfin, justement, ça se mérite aussi parce que c'est une qualité luxueuse, etc.
C'est du 100% plastique avec une jolie boîte. Après, c'est du customing. Hein. Tu peux très bien, après, demander une boîte en velours. Ils en font, etc. Mmh. Mais ils font des cartes publicitaires pour vous et moi. Et ils peuvent faire des cartes de mariage. Ils en font très souvent.
Ah oui.
Et ça fait bien en fait d'avoir son jeu de cartes Nintendo à distribuer aux invités à son mariage.
Ça c'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui
vont passer commande.
Ne le soupçonnent pas. Ils vont devenir encore plus riches.
Ouais,
mon Dieu. Alors justement, tu l'as évoqué très rapidement tout à l'heure. Tu parlais un petit peu de crise rencontrée par Nintendo. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Là, on trace un portrait qui pour l'instant c'est idyllique, ça s'est plutôt bien passé. Et finalement, il y a peut-être eu des moments de doute.
Il y en a eu beaucoup. Nintendo a eu énormément de périodes de crise. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'elle s'est répétée, cette période de crise, en fait, comme tous les cycles économiques, à peu près tous les 10-15 ans. Mmh. Et Nintendo a eu la chance de les surmonter toutes, ce qui fait qu'en fait, Nintendo, c'est aujourd'hui certainement la société familiale la plus ancienne du Japon. Mmh. Voilà. Si on sort de tous les Mitsubishi, les trucs des grands conglomérats. Après, les crises qu'il y a eu, la plus grave a été, je crois, en 1973, lors du premier choc pétrolier. Nintendo a misé énormément sur un de ses projets, le plus gros projet qu'il ait certainement eu, qui était donc le ball trap électronique.
Ah oui.
Ils ont racheté en fait des terrains de bowling qui étaient à la mode en fait à la fin des années 60. Le bowling a perdu du succès en fait 2 ans plus tard, ce qui fait qu'ils étaient et en fait Yokoi Gunpei a eu une idée géniale, recycler en fait ses pistolets électroniques. Non, c'est le contraire. Enfin, il a fait du ball trap électronique, voilà, tout simplement, avec du détecteur de lumière. Ils arrivent à détecter les disques, les assiettes de manière lumineuse. Et ce qui fait qu'on avait un ball trap électronique avec des armes qui
mais moi ça me rappelle quelque chose. Ouais.
Duck Hunt, tout simplement, c'est l'origine de Duck Hunt.
Non, mais même ces bandes d'arcade, enfin, c'est une espèce de grand truc pas très précis de ball trap. Et ça a bien marché, ça?
Ça a cartonné.
Ah ouais.
Ça a cartonné le premier mois.
Très bien.
Voilà. Et puis en fait, il y a eu différentes choses qui ont fait que tout le monde a annulé du jour au lendemain.
Ah oui.
Et que ça a précipité Nintendo dans une crise sans précédent et qui Nintendo aura mis 7 ans à retrouver un minimum de forme.
Donc en vouloir faire du baltrap, ils sont passés pour des baltringues en fait.
Voilà.
Ouh là 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 là.
Merci.
Il faudra attendre les Game & Watch en fait pour qu'ils retrouvent une forme.
Un bel aura. Très bien. Nouvelle question posée sur les forums. Great Teacher Onizuka, j'imagine, parce que c'est juste Oni, mais enfin j'imagine que c'est ça. Il a une question et tu en parlais il y a quelques instants. Nintendo entreprise familiale, bien sûr, mais pourquoi, du coup, Yamauchi n'a pas légué, lorsqu'il est parti à sa retraite, il a un fils, on le sait. Pourquoi il n'a pas laissé Nintendo à son fils plutôt qu'à Satoru Iwata ?
Parce qu'il a 3 ans et demi.
Non, il faut, ouais, c'est une question difficile dans le sens où moi, je n'étais pas dans le bureau de direction le jour où ça s'est décidé. Mais bon, de deux choses l'une, monsieur Iwata est donc passé président Nintendo en 2002. Mm-hmm. Me semble-t-il. En 2002, si mes souvenirs sont bons, Nintendo était quand même déjà une énorme entreprise.
Oui.
On n'était plus dans les années 1950 où, mine de rien, c'était qu'une fabrique de cartes à jouer. Donc, on n'est plus du tout dans la même optique de l'entreprise familiale. Là, il y avait quand même des dizaines de milliards de yens en jeu. Il y avait quand même des gens qui boursicotaient autour. Il y avait des actionnaires. On ne pouvait pas vraisemblablement donner la succession simplement parce que c'est le fils à papa, quoi. Mmh. Donc en fait, je crois que la décision de nommer monsieur Iwata s'est faite simplement sur décision d'actionnaires
Et de compétences
et de compétences.
On en avait parlé d'ailleurs pendant un podcast sur Iwata.
Qu'on vous invite à réécouter si c'est pas déjà fait.
Monsieur, il avait accueilli dans son bureau, il avait cru qu'il se faisait virer Iwata.
Oui, oui.
C'était marrant. Et en fait, il était là pour lui dire qu'il prenait sa succession.
Il lui avait pas passé un savon d'ailleurs.
Non, mais il avait fait tout un speech sur Nintendo, sur ce que c'était, comment ils avaient évolué, et sur ce qu'ils devaient... Enfin, pas sur ce qu'ils devaient devenir, mais...
Sur l'esprit, sur l'âme de Nintendo.
Il avait confiance en Nintendo. Lui, sur, l'incarnation future de Nintendo, quoi.
Et donc, il a bazardé les archives.
Et oui, c'est là qu'il a bazardé les...
Bravo. C'est un peu bravo. Bon, après, c'est vrai qu'il paye pas...
À part ça, il a fait la Wii, quand même.
Et la DS.
Mais la DS, c'est Yamauchi qui l'a suggéré.
Ah oui.
Ouais, pour la petite anecdote, il aurait dit bon là ça reste à confirmer, mais si la DS se plante, je prends plus aucune décision pour Nintendo.
Ah bah ça,
bon.
Ça m'intéresse parce que justement, je crois que c'est une
question.
Attends,
je vais terminer sur un truc.
Alors vas-y, parce que je te relance après là-dessus.
Ouais,
vas-y.
De toute façon, il aurait pu léguer effectivement Nintendo à sa fille, mais il faut savoir aussi que Monsieur Yamauchi, il a un fils. Et que plutôt que de le léguer à sa fille, à mon avis, il aurait plutôt dans la mentalité de cette époque laissé à son fils, quoi, tout simplement, plutôt qu'à une de ses filles, s'il en a plusieurs.
D'accord. Bah justement, on rebondit
sur.
Il n'y
en a pas une à marier par hasard. Hein.
Elles sont toutes mariées, ouais.
Chiotte.
Justement, question, on parle toujours du côté hiérarque, sévère, dur avec ses employés de Yamauchi. Est-ce que c'est vrai, toi, avec tout ce que tu as pu entendre et les conversations que tu as pu avoir avec des personnes plus proches de Nintendo ? Et autre question, justement, est-ce que M. Yamauchi avait un vrai impact sur le développement de certains titres, de certaines consoles, en tout cas de la grande direction où il gérait surtout les affaires, le business au-delà de ça.
Bon, il faut quand même préciser, quand même, parce que c'est bien de le préciser, je n'ai jamais rencontré Monsieur Yamauchi.
Néanmoins, et ça c'est énorme, tu as une photo de lui, je crois, à 6 ans, en noir et blanc, en mode petit écolier.
Ouais.
C'est vraiment des archives incroyables, hein, quand même. Moi, je suis resté stupéfait.
Et encore, j'aurais aimé en parler au début, mais c'est vrai que ce bouquin qui fait 228 pages, il me frustre à un point monstrueux parce que, en fait, j'ai à peine mis la moitié de ce que j'avais.
T'inquiète, t'as 7 volumes.
J'ai 7 volumes, mais bon, pour traiter de cette période de l'histoire du Nintendo, j'avais que ça. On fera un appendice.
8e
voilà.
Volume.
On va faire cracher tous les lecteurs. Exactement.
Et tu mettras tout sur Gameblog.fr. Super, merci.
On fera un deluxe. Mais voilà, j'ai jamais rencontré Monsieur Yamauchi, qui est certainement l'homme le plus difficile à rencontrer après le pape, peut-être même devant le pape. Donc,
qu'est-ce qui te fait dire ça ?
Ben, il est tout simplement inaccessible, ne serait-ce que par l'aura qu'il a.
Alors que c'est vrai que le pape se fait dire dessus, lui.
Ouais, mais non, mais en fait Yamauchi, bon, c'est l'homme le plus riche du Japon. Donc déjà rien que ça, c'est très très difficile de l'apercevoir parce que sa propriété privée, c'est une forteresse. Mm-hmm. J'y suis allé, il y a trois couvertures comment on appelle ça,
rideaux.
Des douves.
Ouais,
avec des missiles nucléaires.
Non, mais en fait il y a un mur parce que sa maison est assez vieille. C'est une vieille maison traditionnelle dans une petite rue qui paye pas de mine au Japon.
Et il est où ? Il est à Kyoto ?
Il est à Kyoto, ouais.
D'accord.
Et
tous les gens importants de Nintendo, ils sont tous à
Kyoto. Ils sont tous à Kyoto, de toute façon.
Ah, ils pourraient être dans la Pampa, je sais pas.
Mais c'est vrai que le mur de monsieur.
Le mur d'enceinte, c'est ça que
le mur d'enceinte, c'est un mur japonais, c'est-à-dire avec des belles tuiles assez épaisses, etc. Mais il fait 2 mètres le mur. Mais au-dessus de ça, il y a encore un mur avec des pics qui ferait peur à n'importe quel sadomasochiste. Et, et là-dessus, il y a encore du bambou sur 1,50 m. Et encore au-dessus, il y a des barbelés. Enfin, c'est
la première habitation japonaise qui se voit de la planète Mars.
Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. C'est vraiment la grande muraille de Kyoto. Quoi.
Très bien.
Et donc, c'est quelqu'un d'inaccessible. Et quand il sort à mon avis de chez lui, il est déjà de toute façon avec son chauffeur, avec ses vitres teintées. Donc, on le voit pas. Quoi.
C'est quelqu'un d'apprécié à Kyoto d'ailleurs. Parce que mine de rien, il doit avoir fait énormément pour l'emploi, pour l'économie. De
et
la
pour
ville.
Kyoto, il a fait énormément, mais pour la il a fait des dons gigantesques pour un hôpital, d'ailleurs c'est l'hôpital qui est juste à côté de chez lui, alors on sait pas si c'était pour le soigner, mais il a fait plusieurs
on le rappelle, il a 142 ans quand même.
Non. Et il a fait un don aussi de je sais plus, j'ai plus le chiffre en tête, de plusieurs milliards de yens pour fabriquer en fait le seul musée du Hyakuni Ishu, je répète le nom qui est un peu barbare, mais des cartes de 100 poèmes. Et c'est Nintendo qui a aidé en fait au développement de ce musée. D'ailleurs il y a des jeux interactifs avec des DS sans boutons, voilà, pour ceux qui peuvent se rendre dans ce musée, c'est assez sympa. Donc en fait il a fait énormément, non seulement pour l'emploi parce que c'est finalement la plus grosse entreprise de Kyoto, il a fait énormément pour la culture dans le sens où il a fait des dons pour ce fameux musée. Et puis il a fait des dons aussi donc pour
alors qu'il aurait pu ouvrir un musée gratos, il a tout mis à la poubelle.
Et voilà, il aurait pu ouvrir d'autres hôtels aussi, où il aurait pu faire plein de trucs avec son argent, quoi. Et il a fait beaucoup.
D'accord. Alors on parlait là justement de l'habitation de Monsieur Yamauchi. Parlons maintenant des locaux de Nintendo. C'est une question de Ako Menu sur le forum de Gameblog.fr.
Ils ont tous des forums des pseudos bizarres.
Ah oui, je ne sais pas.
Hein, mais bonjour tout le monde.
Ils s'amusent.
Ouais.
Donc justement, il voudrait savoir. Il y a une légende qui dit que c'est un véritable bunker imprenable. Et pourtant, on a vu sur Internet des vidéos de quelqu'un qui pouvait rentrer. Et justement, je crois que tu le connais bien et tu as envie de rétablir une certaine vérité.
Non, mais en fait, oui, il faut distinguer deux choses. En fait, des locaux Nintendo, il y en a 4. Donc, il faut savoir déjà de quels locaux on parle. Si c'est les locaux actuels, ils sont tous utilisés de toute façon. Mais si on parle des locaux actuels, ceux qui servent à accueillir en fait tous les développeurs, etc., c'est un hôpital. Voilà. Il faut savoir que quand on rentre dedans, Julot y est rentré, je crois.
Ouais.
Donc quand on rentre dedans,
il est sorti, il était bizarre. Depuis,
il est sorti sur un brancard.
Non, j'étais tout chaud quand j'y suis allé. Et effectivement, moi j'ai eu l'impression d'un truc super sécurisé avec il y a deux desks avec des nanas derrière, il y a rien, c'est tout blanc.
Ah non, c'est tout blanc, c'est un hôpital, on n'y voit absolument rien. Il y a des œuvres d'art d'ailleurs qui sont faites par les cousins de la famille.
L'hypochondriac, moi j'y suis allé.
T'as cru que c'était un vrai hôpital.
Ouais. Et donc on n'a pas du tout l'impression qu'on est chez Nintendo. Il y a un drapeau au-dessus avec un marqué Nintendo en japonais. Si.
Il y a le logo Nintendo sur le bloc blanc, parce que c'est un espèce d'énorme bloc blanc. Quoi,
le seul truc qui est bien, en fait, dans ces locaux, c'est la loge du gardien.
J'ai pas vu.
Ça fait
rêver. Non, mais la loge du gardien, c'est assez drôle, parce que quand vous regardez derrière, il y a des Pokémon partout, il y a des Mario partout. Enfin, lui, il adore. Hein. En tout cas, le gardien, il est à fond là-dedans.
Complètement neuneux, le gardien.
Ouais, et c'est en fait, c'est le seul endroit qui te prouve que t'es chez Nintendo, parce que quand tu rentres dedans, c'est vrai que c'est tout blanc et c'est aseptisé.
Impossibilité pour quelqu'un qui n'est pas suraccrédité de pouvoir pénétrer dans le Saint Graal.
Bah, c'est difficile. Hein,
Alors, justement,
et en tout cas, t'accèdes même pas aux étages, je crois, parce qu'en plus, quand t'es reçu, toi, moi, c'était en tant que journaliste, c'était au Red Chaussée, machin.
À la cafette, quoi. Voilà.
Non, mais c'est pas la cafette, non, il y a des salles exprès.
Voici
quoi.
Le nouveau Zelda.
Mais t'as l'impression de vraiment pas aller dedans, quoi.
Non.
C'est de rester un peu en périphérie, comme
mais
ça.
Mais ça a changé, parce qu'on a rencontré avec mon ami japonais pas mal de gens qui bossent chez Nintendo, qui bossaient aussi chez Nintendo, et qui nous disaient, à l'époque de la Famicom, dans les premières années, c'était encore très cool. Ils appelaient, en fait, pour se faire livrer des nouilles chaudes, etc. Et les mecs, ils arrivaient, ils livraient à l'étage en disant, voilà, voilà vos nouilles, voilà vos pizzas. Enfin,
et les mecs étaient en train de développer les jeux devant.
Et ils développaient les jeux. Enfin, ils travaillaient normalement, quoi. C'était pas du tout une forteresse imprenable.
Qu'est-ce qui s'est passé, à ton avis?
Bah, c'est tout simplement devenu la plus grosse société de jeux vidéo du monde, et puis c'est devenu ultra sécurisé, pas se faire piquer les idées.
Alors, je reviens à ma question de tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on voit sur Internet donc cette fameuse vidéo? On voit quelqu'un qui rentre à l'intérieur, ça a l'air facile, il parle à tout le monde.
Ce monsieur, cet Américain, est rentré chez Nintendo dans la deuxième, en fait, dans le deuxième local. C'est celui qui est avec des dalles en marbre, des murs en briques, etc. C'est le deuxième local, juste à côté du local en bois qui a été détruit. Et il est rentré par la porte arrière, tout simplement, parce qu'elle était ouverte. Il a eu un coup de bol monstrueux. Il avait une caméra cachée. Il est rentré dedans. Il a filmé quelques secondes. Et voilà, quoi, tout simplement. Et il s'est fait choper, évidemment. Il n'a pas essayé de rentrer, de voler ou quoi que ce soit. Mais il y avait une gardienne qui a dit, mais comment vous êtes rentré? Il bredouillait 2-3 mots de japonais, donc il s'est expliqué un peu. Il a réussi à filmer un petit peu, voilà, tout simplement.
Puis il a poussé un cri à la Wakba. Et il a couru tout droit.
Mais moi, avec mon ami japonais, on a essayé, évidemment, on y a été des dizaines de fois devant ce local. Non seulement pour rencontrer cette fameuse grand-mère qui nous a parlé de ses années chez Nintendo, tout ça, mais on n'a jamais réussi, nous, à y rentrer. Ça, c'est totalement imprenable. Le gars qui a réussi à rentrer, l'Américain, il a pu, parce qu'il a eu un coup de bol, la porte arrière était ouverte. Mais je peux vous garantir qu'elle est fermée. Hein. Enfin, moi, chaque fois que j'y suis allé, c'était fermé.
Ah, mais t'as essayé.
Ah, t'as essayé.
Ah, évidemment.
ça marche une fois.
Ça marche une fois, mais ça n'a pas marché une deuxième fois. Ouais.
Très bien.
Mais ce monsieur est un usurpateur dans le sens où. Ouais,
ah, vas-y, non, mais vas-y, lâche-toi si t'as quelque chose à lui dire.
Non, mais après. Non, mais il connaît mon avis parce qu'il a fait d'autres vidéos où j'apparais dessus, mais alors qu'il s'était censé ne pas apparaître. Enfin, bref. Et. Il est rentré, en fait, il a fait une deuxième vidéo sur la maison de Monsieur Yamauchi. Il a dit, voilà, je suis chez Monsieur Yamauchi, donc il a filmé une belle maison.
Alors que tu nous disais que c'était complètement imprenable.
Bah oui, mais de toute façon, il est rentré dans une autre maison. Donc comme ça, c'est clair que...
Ça, c'est réglé.
Comme ça, c'est réglé. C'était pas... Il s'est trompé, tout simplement. Donc, mais bon, voilà.
Il est allé chez la voisine.
Il est allé chez le voisin.
Très sympa, qu'il lui a offert un café.
Et il est persuadé d'avoir un scoop. Bon, bah après, moi, j'ai une rancœur contre lui, mais ça, c'est personnel. Donc ça n'a rien à voir avec ça, quoi.
Écoute, quand vous vous battrez, c'est comme Hugo Ball contre je sais plus qui est le réalisateur. Ce sera organisé sur...
Ah,
Uwe Ball contre...
Contre Michael Bay.
Contre Michael Bay, voilà. Bah, vous organiserez le combat, le versus sur gameblog.fr. On filmera, puis tu l'extinctras, je sais pas, tu feras des trucs bizarres, des prises de Jack Jensou. Une autre question?
Ouais.
Ou t'es rincé?
Non,
une autre question. Ah bah non, toujours. Ça
il
continue.
Reste du temps en plus.
Bah hein. Voilà. Alors, une autre question de Léville qui concerne justement, on en a parlé, on l'a cité nombreuses fois dans ce podcast. Et justement, j'aimerais en savoir un petit peu plus désormais sur Gunpei Yokoi, donc le créateur de la Game Boy emblématique. Et puis, il a pas créé que la Game Boy pour Nintendo. Et pourtant, il a été évincé. Limogé apparemment comme un malpropre lors du flop de la Virtual Boy. Alors est-ce que c'est une légende, est-ce que c'est une réalité, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus subtil derrière tout ça?
Bah alors en fait, il y avait beaucoup de questions parce que je les ai préparées un peu dans le métro, on me les avait données, qui sont hors sujet par rapport au bouquin, mais celle-là je voulais quand même y répondre.
Ça me permet de dire que probablement on fera des podcasts bien plus tard quand tu sortiras les prochains volumes.
Ouais, bah on l'espère.
Si ça te dit.
Avec grand plaisir. Voilà. Super. Yokoi Gunpei a-t-il été effectivement évincé de Nintendo? Il faut savoir que Yokoi Gunpei, c'est tout simplement l'inventeur de la croix multidirectionnelle. Et c'est pas rien, parce que finalement, même si ça n'a pas forcément une forme de croix, c'est utilisé partout. C'est une invention tout simplement géniale qui a été utilisée partout. Il a créé évidemment les Game & Watch, qui là aussi sont une invention 100% made in Nintendo et Yokoi Gunpei. Il a fait évidemment la Game Boy. Moi, je dis là, n'en déplaise aux dirigeants de Nintendo.
Oui, t'inquiète, ici, t'es c'est conquis.
Il a participé, évidemment, au développement de la Famicom. Je ne cite même pas les nombreux jouets qui ont permis de sauver Nintendo de la déchéance économique. Donc, il a fait énormément.
Oui.
Et il s'avère que quand il a fait son Virtual Boy, pour le coup, on dit son, tiens. quand il a fait le Virtual Boy, il s'est planté. Voilà, tout simplement. Ça s'est absolument pas vendu. Ça a été un flop.
Retentissant.
Ouais, certainement le deuxième plus gros flop après les fameux pistolets. Voilà. Et il est parti, en fait. Enfin, il est parti, voilà, j'ai déjà balancé le truc. Un an et demi plus tard, il est parti de Nintendo. Mmh. Et là, tous les journaux japonais, les premiers, ont spéculé en disant voilà, il s'est fait jeter comme un malpropre. Ce qui est totalement faux. Totalement faux. Parce qu'il faut savoir que derrière le Virtual Boy, Yokoi Gunpei, il a fait aussi le Game Boy Mini, qui a été un succès monstrueux. Mmh. Il n'est pas parti, en fait. Il s'est pas fait virer. Il est tout simplement parti. Parce qu'il avait dit, lui, il avait déjà annoncé à Nintendo, quand j'aurai dépassé la cinquantaine, je veux faire autre chose, tout simplement. Nintendo était devenu beaucoup trop gros. Il faut savoir que Yokoi Gunpei, c'était quelqu'un de très simple, qui aimait bricoler, qui adorait ça. Et à Nintendo, en fait, on lui avait donné tellement de responsabilités qu'il n'était pas libre du tout de faire ce qu'il voulait vraiment.
Ouais.
Autrement dit, il avait des tonnes de petites idées, de petits jouets, de petits machins, mais Nintendo, c'était devenu tellement monstrueux, il y avait tellement d'enjeux derrière, qu'il pensait en millions d'exemplaires vendus. Mmh. Lui, Yokoi Gunpei, c'était un MacGyver du bricolage, de tout ce que vous voulez. Il voulait faire des jouets qui donnent du plaisir aux enfants, et il n'avait absolument pas, en fait, envie de ne penser qu'en termes économiques. Voilà. Et il est parti de Nintendo après le Game Boy Mini. En fait, j'ai un trou de mémoire, c'est pas Game Boy Mini.
C'est Micro, non?
Non,
micro,
ça c'est... Oui.
C'est laquelle? Elle ressemble à quoi?
C'est la c'est celle avant la Color en fait.
Ah, c'est la Light.
Light.
La Gimbal Light.
Non, parce que ça, c'est la lumineuse.
Non, c'était la celle.
C'était celle qui était juste plus fine, c'est ça?
Ouais, j'ai oublié le nom. Ça,
tu vois, Game Boy Micro, moi, je crois.
Non.
Moi, je crois que c'est vraiment la Gimbal Light, parce que la Light, c'est pas la lumière.
Light, c'est la lumière. Si,
Gimbal Light,
sûr.
C'est celle qui avait un écran.
Ah là là, les incompétents, on est 6, on n'arrive pas à retrouver là.
Écoute, c'est là où généralement j'ai cette grande phrase. Eh bien, vous, sur les forums, n'hésitez pas à nous aider, puis vous laissez ça, et puis tu verras, ça se passe très bien.
Bon, bref, il a fait en fait voilà, la deuxième version de la Game Boy monochrome et qui a été un carton. Il devait partir derrière le Virtual Boy, et comme il a vu que c'était un échec, il a dit je peux pas partir sur un échec, je vais faire un autre truc. Il a fait la customisation de la Game Boy qui a été un succès. Il est parti après. Il a absolument pas été viré. C'est pas possible quand on voit le...
Mais tu peux pas virer un mec comme ça, c'est le mec qui a fait l'histoire de Nintendo.
Et évidemment une fois qu'il y en a un qui a sorti ça, vu du moment que c'est un petit peu sensationnel, tous les sites, tous les magazines, même en Occident, ils ont tous repris l'info en disant
si les magazines japonais, enfin si les journaux japonais le disaient,
ils l'ont dit. Bon, après nous on a des preuves parce que Yoko Gunpei il a témoigné ensuite derrière, donc il a même une biographie
et surtout qu'il a eu une fin tragique quelques temps
après. Mais voilà, il a témoigné, il l'a dit lui-même, j'ai pas été viré tout simplement.
D'accord.
Donc ça c'est une.
Bah ça c'est intéressant.
Pour la petite anecdote, la vie de Yoko Gunpei sortira aux éditions Pixelov dans quelques années. Parce que j'en ai fait un mémoire en fait, moi pour la fac, c'était mon sujet de mémoire, la vie de Yoko Gunpei.
Quelle classe.
Faudra attendre encore que.
Ça c'est la classe. Alors juste.
Il est mort combien de temps après finalement?
Il est mort en 2002.
Il est mort en il est mort en 97.
97. Ouais.
En octobre 97.
Il est parti de Nintendo combien de temps avant?
Il est parti 2 ans avant. Il a monté sa petite boîte Koto.
Koto.
Quelle tristesse, non mais tu te rends compte?
Qui a monté la Wonder Swan tout simplement. Et, Koto, ouais. Il a fait plein de petits jouets en attendant qui étaient géniaux et puis voilà. Enfin bref.
On sait qu'aux États-Unis il y a une boutique Nintendo où on peut retrouver un petit peu un historique, alors rapide, il y a une Game Boy qui vient de la guerre d'Irak, il y a pas mal de choses, vraiment des reliques. Là tu nous as dit qu'ils avaient un peu tout bazardé, mais est-ce que néanmoins il y a des gens qui se posent la question, est-ce qu'au Japon il y a une sorte de musée? Peut-être quelque chose qui regrouperait certaines reliques, puisque tu as dit qu'ils ont beaucoup jeté, mais qu'ils ont gardé quand même certains éléments clés.
Ils en ont gardé quelques-uns, mais c'est vraiment, par exemple, c'est les jouets les plus emblématiques, comme le Love Tester, que beaucoup...
C'est quoi, c'est le Love Tester?
Je vais pas faire du spoiling encore. Bon, c'est une machine, c'est un petit truc électronique qui était censé en fait détecter les affinités amoureuses d'un couple.
Non.
Tout simplement. Si, c'est un petit jouet assez rigolo. Vous verrez ça dans le bouquin. Ah, je fais encore du teasing, mais ils ont gardé quelques jouets en fait emblématiques de la marque, les premières consoles, les Game & Watch, tous ces trucs là évidemment, mais ils ont tout bazardé. Voilà, il y a énormément de jouets qu'on ne retrouve plus.
Donc il n'y a pas de lieu dédié?
Non, il y a pas
musée.
De lieu.
C'est tellement hallucinant que j'ai du mal à le croire.
Ouais, mais il y a eu un musée en fait Nintendo, mais qui a eu lieu en fait pendant 4 jours. Voilà, donc c'était une exposition. J'en suis pas peu fier, puisque j'ai eu la chance de participer au projet. C'était fait par le magazine Nintendo Dream et puis des collections personnelles, dont celle de Monsieur Yamazaki, qui est la personne qui m'a aidé à faire le bouquin.
Ouais.
Et pendant 4 jours à Osaka, en fait, on a fait un grand musée Nintendo avec l'accord évidemment de Nintendo, qui nous ont beaucoup aidés. Et on a pu effectivement mettre une grande quantité de jouets à disposition en fait des visiteurs. Donc plus de 10 000 personnes sont venues en 4 jours. C'était un gros succès. Et c'était vraiment une expérience très très sympa. Énormément de développeurs d'ailleurs de Nintendo sont venus, et c'est grâce à ça que j'ai pu avoir pas mal de contacts et ensuite les approfondir pour avoir des détails. Mais en plus, etc.
Pourquoi c'était à Osaka?
Bah, c'est parce que déjà à Kyoto, il y avait peut-être. En fait, il faut savoir qu'à Osaka, ça s'est fait sur ce qu'on appelle un Depato. C'est un grand magasin. Ça s'est fait sur le Department Store, ouais. Et ça s'est fait en fait au dernier étage dans les salles d'exposition. Donc c'est là qu'il y a en général les expositions d'art au Japon, en plus des musées. Et voilà, il s'est trouvé que ça s'est fait ici et que c'était pas ni à Tokyo ni à Kyoto. C'était à Osaka. Bon, il faut savoir que Osaka aussi, c'est à 30 minutes en train de Kyoto. Oui. Hein, c'est tout près.
Oui, mais pour donc, le côté un peu sont venus, historique, ça aurait été
plus symbolique de le faire à Kyoto, mais c'était pratique à Osaka. C'était à côté de tous les grands axes de gare et puis c'est quand même pas loin.
Et puis tu ramènes forcément plus de monde parce que
de toute façon,
Osaka, c'est la deuxième ville. Mais c'est même.
Après c'est difficile. C'est les mégalopoles avec Yokohama et compagnie. Mais ouais, Osaka, c'est le deuxième plus gros centre, on va dire.
Bon, Florent, pour conclure ce podcast qui, ma foi, est juste hallucinant, enfin, on apprend quand même beaucoup de choses et il y a encore énormément de choses à apprendre dans ton livre. Justement, je reviens rapidement sur la dernière partie de ton ouvrage, donc celle qui se rapproche le plus des années 80. Et justement, on y apprend, donc c'est bien avant la NES, que la NES n'est pas la première console de Nintendo. Et je vois les Color TV Games. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Ouais, enfin les Color TV Games, ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des Pong-like. Mm-hmm. Voilà, tout simplement, c'est des jouets qui ont été développés en collaboration avec Mitsubishi Electronic, sous licence Magnavox. Donc Magnavox, pour ceux qui connaissent, c'est très bien, mais pour ceux qui ne connaissent pas, bon, c'est tout simplement ceux qui avaient les droits sur les consoles entre guillemets domestiques et Pong. Mm-hmm. Et voilà, bah, Nintendo s'est lancé dans les Color TV Games avec un concept de vente qui était un peu novateur, ce qui fait qu'ils ont réussi en fait dès cette époque, dès 1977, bah, devenir leader des machines domestiques de jeux vidéo.
Et finalement, à se créer un peu d'expertise, se faire un peu la main. Angel, tu veux réagir là-dessus, visiblement?
Non, c'était pas là-dessus. Moi, j'avais juste une question.
Oui, bah, vas-y.
Et donc, parce qu'il y a quelques années, il y a eu des rumeurs donc, de possibles rachats de Nintendo par Microsoft. Dans quelle mesure c'était vrai, tout simplement, ou pas? Est-ce que c'était déjà possible, vu que c'est une entreprise familiale depuis...
Je sais pas, tout simplement. J'ai fait des recherches sur Nintendo, tout ça, mais j'avoue que là,
Est-ce que c'était envisageable déjà, au moins?
Financièrement parlant, je pense que
pour une entreprise familiale comme ça se fasse racheter en plus par un groupe américain.
C'est pas une question d'entreprise familiale ou pas, c'est vraiment une question économique.
D'argent,
bah après on peut investir en parts. Voilà, ils auraient pu investir capital tout simplement. Ça aurait pu être à 10%, 15%, 20%, mais bon.
Ils étaient déjà cotés en bourse de toute façon.
De toute façon, Nintendo est coté en bourse depuis
bien longtemps, que c'est une entreprise familiale. C'est une multinationale comme une autre depuis des années.
Alors justement, quand c'est en bourse, tu peux faire une PA hostile, voilà.
Oui, mais enfin,
acheter Nintendo si t'as les milliards qu'il faut.
Ah oui, si t'as des centaines, des centaines
de milliards.
N'importe
qui peut acheter des parts, il peut être majoritaire et voilà.
Parce mais que ça, la valorisation aujourd'hui de Nintendo, c'est des
centaines
de milliards.
Techniquement,
c'est
possible, mais est-ce que la fortune de Microsoft, ça représente assez pour se payer vu le
coffre-fort de Nintendo, à mon avis, dans leur rêve. Après, c'est pas une question de thunes, c'est une question d'après. C'est de la haute finance et je crois que personne ici n'est assez qualifié.
Ouais. On a beau être rue de la bourse.
Ta gueule.
Bref.
Donc voilà, Florent, en tout cas c'est un peu ce qu'on pouvait dire justement sur cet ouvrage, en tout cas vous donner envie de le parcourir. Franchement, moi je reviens un petit peu sur sa qualité, hein, parce que à la fois dans le fond et dans la forme aussi, il est livré avec une petite comment on appelle ça,
un protège-cahier.
Ouais, c'est un protège-cahier en plastique. Ouais, ouais. Vraiment, c'est un beau. C'est quoi comme format? C'est format
A5,
voilà. Franchement,
très lourd.
C'est plus de deux. Ouais, c'est massif.
C'est du beau papier.
C'est
hein,
du très
beau
papier glacé.
Épais.
C'est plus de 220 pages. On n'est vraiment pas là
les
pour en faire
sont
la.
Superbe.
Si, faisons la promo.
Non, mais ce que je veux dire là, c'est que c'est pas, on n'est pas payé pour ou quoi que ce soit, mais juste on a eu un vrai coup de cœur. Et effectivement, Florent, quand on s'est rencontrés, bah, tu nous en as parlé et juste ça a fait tilt dans notre tête. Et dès qu'on a vu l'ouvrage, franchement, chapeau. Parce qu'en termes de boulot, c'est juste colossal quand même.
C'était assez énorme.
Combien de temps en tout pour faire?
Il a fallu 6 ans en fait pour faire le bouquin. Bon, évidemment, j'avais un boulot à côté, donc c'était pas à temps plein.
Alors qu'il ne faut qu'une heure pour faire un podcast. Merveilleux. Fais des podcasts avec tout le temps. C'est vachement plus rentable.
Ouais, en fait, ça a été assez compliqué parce que il y avait énormément d'informations qu'il fallait trier, ça c'est sûr. Et puis il a fallu en fait faire des choix, comment classer les jouets, quelles informations garder, quelles informations ne pas garder. Ça a été en fait assez compliqué, ouais.
Alors
surtout pour le chemin.
Ce qui est génial, c'est que c'est un bouquin que tu peux prendre à la première page, commencer à lire.
Ah, tu le feuillettes.
Tu peux le picorer, etc. Mm-hmm. Parce que t'as des listings de tous ces jouets hallucinants, parce qu'il y a des jouets quand même hallucinants.
Il y a tous les Game & Watch aussi.
Et puis il y a tous les Game & Watch. Ils sont tous là.
Hanafuda, Karuta, carte, Ultra N, jouet, Ultra Machine, NNB Block, Love Tester, jeu société, Lime Beam Gun, Laser, Game & Watch, Color TV Game, Arcade Game. Si vous voulez tout savoir sur l'histoire de Nintendo de 1889 à 1980, bah c'est des cartes à jouer au Game & Watch. C'est vraiment cet ouvrage qu'il faut vous procurer. Justement, ça coûte 19€. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour se le procurer, justement?
Alors, il y avait une question, je crois, d'ailleurs. On peut se le procurer, en fait, de n'importe où dans le monde, en fait, tout simplement. Après, les frais de port, on est désolé, ils sont chers, mais ça, c'est la poste, avec la poste qu'il faut voir. Mais on peut l'acheter, en fait, partout dans le monde, que ce soit en Belgique, en Suisse, pour 19€ plus frais de port sur notre site internet.
Voilà, donc, on va mettre un lien sur gameblog.fr.
editionpixelnove.fr. Et voilà. Moi, j'espère que ça vous plaira.
Quel est le truc que tu retiens, toi, en fait, finalement? Après avoir fait le bouquin, quels sont les trucs que tu as découverts que tu n'aurais jamais imaginé, quoi? Si tu peux en citer un.
Ta plus grande découverte.
Celle dont tu es le plus fier.
Celle dont je suis plus fier, oui, c'est je crois certains jeux d'arcade en fait. Et c'est ce qu'a provoqué en fait le retard du bouquin, non seulement parce qu'on a beaucoup de boulot sur Pixelnove le MOOC, mais on a trouvé un jour, voilà, tout simplement 4 ou 5 nouvelles bornes d'arcade que personne ne connaissait jusqu'à présent. Et ben ça, on était super fiers d'avoir retrouvé des documents sur ça. Et il a fallu revoir toute la mise en page pour que ça rentre dans le bouquin, décaler des jouets, trouver de la place, ouais, et remettre des pages. Et on est assez fiers en fait de la rubrique arcade, surtout la première partie, puisqu'il y a pas mal de documents qui sont vraiment vraiment inédits.
Bah c'est que ça, hein, chaque page. Hein,
oui, tu découvres. C'est ce qui m'effraie, chaque page que moi, tu tournes, tu découvres un truc que tu sais absolument pas. Quoi.
Mais j'ai un collègue en fait qui a vu le bouquin aussi et qui m'a fait plaisir en fait parce qu'il m'a dit voilà, on a quelque chose sur Nintendo à se mettre sous la dent, alors que on croyait tout savoir. Et là, c'est dans ce sens-là pour le rétro gaming, c'est une petite révolution. Donc ça m'a fait très plaisir évidemment parce que c'est un terme qui fait
oui,
plaisir.
Là, c'est pas un ouvrage dans lequel tu parles des souvenirs de Nintendo, des bons jeux de... Non, c'est encyclopédique, c'est une vraie enquête, c'est une vraie recherche sur qu'est-ce qui a été créé de manière très objective. Et...
Ouais. Les plus gros accros vont retrouver des trucs qu'ils connaissent déjà, mais il y a de la nouveauté. Et là, c'est
CAF,
et
les collectionneurs.
CAF, justement, je crois qu'il a flashé là sur la page 211. Qu'as-tu découvert ?
Il y a un de mes premiers jeux vidéo.
Que d'émotion.
Le Game & Watch Popeye.
Ah, super. Ah bah je l'ai fait aussi.
Ah, moi aussi je l'avais Popeye. Ah, on l'a tous eu, ça doit être leur meilleur vente.
Je crois qu'ils l'ont caché. Mais il n'y en avait pas. Tu vois, quand tu vois toute la liste qu'il y avait dans la même année, en France, il n'y en avait pas tant.
Attends,
que ça.
Celui
quoi.
En double écran avec
l'œil
mec.
Oil Panic.
Aussi. Ouais. C'est mon deuxième.
Oui, parce que c'est ça.
Non, moi c'était un chercheur de diamants.
Ah ouais. Ah, je l'aimais bien. Oui, chez les Aztèques.
C'est Nintendo ça.
Et tout le monde a eu Parachute. Game & Watch. Parachute.
Le meilleur restant Octopus.
Vous savez, qui était pas mal.
On a tous son meilleur en fait.
Voilà, et ben justement, vous allez pouvoir retrouver votre meilleur parce qu'il y a les 60 Game & Watch historiques, hein, qui sont tous là en photo, ouais, avec un petit explication, un petit topo sur chacun d'eux pour conclure justement.
Et je tiens quand même à préciser que le volume 2 traite en fait des Game & Watch. Mm-hmm. Donc là, ils sont tous présentés les 60, mais sans pratiquement aucune information malheureusement.
C'est clair.
Désolé.
En fait, ils sont listés. Quoi.
Et le deuxième volume, lui, fera 200 pages uniquement sur les Game & Watch. Qu'est-ce qu'on peut raconter sur Game & Watch ? Bah, vous le saurez dans quelques mois.
Et bah parfait.
Et tu dors jamais.
Nous le raconter.
Et je ne dors jamais, donc voilà.
Et effectivement, comme le soulignait Julio, tu viendra nous en parler un petit peu plus, qu'on sache sur l'histoire du Game & Watch d'ici quelques mois sur Gameblog.fr. Pour se quitter, on va se quitter en musique, hein, avec Sid Haditbol, qui est un artiste qui fait uniquement de la chip music, donc de la musique qui provient de la Game Boy directement. Ouais. Je crois que c'est quelque chose aussi que tu édites.
Les
chez Pix & Love. Voilà. C'est 16 titres complètement musique 8 bits.
Ouais.
Ben pour les passionnés, écoutez, voilà ce que ça peut donner. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur gameblog.fr pour un nouveau podcast. On fera le retour sur l'actualité, puisque effectivement, vous l'avez vu, hein, cette semaine, normalement, comme tous les premiers mercredi du mois, c'est ce qu'on devait faire. Mais enfin bon, là, on avait un invité exceptionnel. Une fois de plus, merci Florent, merci à toi. Et puis, ben, vous avez le lien maintenant, si vous voulez en savoir un petit peu plus. À la semaine prochaine, jouez bien, et puis portez-vous bien, et puis surtout, écoutez.